Toutes les 4 minutes en France survient un accident vasculaire cérébral. À partir de cet instant, c'est une véritable course contre la montre qui se déclenche en raison de l'urgence à intervenir. La prise en charge des AVC a quand même beaucoup progressé ces dernières années, avec des traitements possibles dès l'apparition des premiers symptômes. Mais comment reconnaître un AVC? Quels sont les symptômes justement? Comment réagir? Où en est la recherche? Dossier de la tête au carré dans un instant, avec mes invités en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Toutes vos questions, vos témoignages, dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Est-ce bientôt la fin de la course à la puissance de calcul des ordinateurs? Une étape importante est en passe de bouleverser la recherche en informatique et c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, les industriels du microprocesseur en finissent avec la loi de Moore. Cette loi de croissance qui a porté quasiment toutes les avancées technologiques depuis 1970 n'est plus tenable. On fait le tour dans la science du silicium dans un instant à la une de la science.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Estelle Honora.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dossier donc dans quelques minutes consacré aux accidents vasculaires cérébraux. Mes invités, les professeurs Jean-Louis Masse et François Chollet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Jean-Louis Masse. Les AVC en France représentent la première cause de handicap acquis chez l'adulte, la première cause de mortalité pour les femmes. Les conséquences de ces accidents sont extrêmement lourdes. On peut parler d'un véritable fléau partout dans le monde d'ailleurs.
Oui, c'est un fléau partout dans le monde, vous l'avez dit, un AVC toutes les 4 minutes, 15 AVC pendant la durée de cette émission. Mais les chiffres dans le monde sont encore plus impressionnants. Il y a, les données de l'OMS font état de 16 millions d'accidents vasculaires cérébraux pour l'année 2010.
Oui. C'est les derniers chiffres.
C'est les derniers chiffres que l'on ait, avec des projections. Avec des projections, c'est 6 millions de décès par AVC. Et un indice qui est intéressant, qui est utilisé par l'OMS, c'est le nombre d'années de vie perdues du fait du décès ou d'un handicap. Et ce nombre a été estimé à 100 millions d'années en 2010.
François Chollet, est-ce que les recherches permettent de mieux comprendre et d'anticiper justement la survenue de ces accidents? On voit bien qu'il y a vraiment une question d'urgence lorsqu'ils interviennent.
Clairement, il y a des progrès importants qui ont été faits dans la prise en charge, vous l'avez dit en introduction, dans la rationalisation des soins, dans la création de filières spécifiques avec les unités neurovasculaires. Avec de nouveaux traitements, vous l'avez dit, la thrombolyse, la thrombectomie, et puis après, le suivi des patients en rééducation, qui est fait finalement que la filière est une filière importante et qui doit être complète.
On se retrouve donc dans un instant pour évoquer ces différents aspects liés aux AVC, dossier donc en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Le monde du microprocesseur va en finir avec la loi de Moore. L'annonce vient des plus grands industriels du domaine du circuit imprimé. Cette loi de Moore, une loi de croissance qui a porté l'innovation électronique et informatique depuis les années 70, va être sans doute abandonnée. Pour comprendre la science qui se cache derrière cette annonce, nous sommes avec Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, à la tête de la chaire informatique et sciences numériques, médaille d'or du CNRS en 2014. Gérard Berry, cette fameuse loi de Moore, le grand public, alors, la connaît pas forcément et pourtant elle est extrêmement importante dans l'histoire de la recherche en informatique. Comment peut-on l'expliquer en quelques mots?
Alors, la loi de Moore exprime que la taille des composants électroniques sur un circuit va être divisée par deux tous les 2 ans à peu près. Ça veut dire une exponentielle. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, c'est divisé par 1000. C'est ça qui s'est passé.
Donc un monde de plus en plus petit, c'est ça?
Un monde de plus en plus petit, ce qui fait qu'il consomme moins d'électricité, il est plus rapide, jusqu'à un certain point. Alors la loi de Moore, c'est pas une loi de la physique, c'est une décision de l'industrie. L'industrie s'est organisée pour que tout le monde fasse pareil au même moment, à peu près.
C'est Monsieur Moore, d'ailleurs, qui est à l'origine.
C'est Monsieur Moore. Alors, au début, c'était une observation, au tout début. Quand Monsieur Moore, le créateur d'Intel, là, qui faisait les premiers circuits, s'était aperçu qu'on arrivait à faire ça, il a dit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ça a été ce qu'on appelle une roadmap, c'est-à-dire une direction prise par l'industrie de façon consciente et coordonnée. C'est pas une loi de la physique.
Ouais.
Alors on a entendu très souvent qu'elle allait s'arrêter à cause de la physique. Moi j'ai entendu ça pendant 25 ans. Alors ce n'est pas vrai. C'est pas la physique qui va arrêter. Enfin, la physique est de plus en plus dure quand on rétrécit, mais elle est encore faisable.
On peut aller en divisant les choses par deux, alors.
Jusqu'à un certain point, mais parce que ça finit par être vraiment au niveau de l'atome, c'est un peu gênant. Mais on est à des niveaux très très bas à l'heure actuelle. on est dans des 15 nanomètres de taille. On va descendre plus bas, probablement à 10, probablement à 4. Mais plus on descend bas, plus c'est difficile à fabriquer, plus l'industrie est horriblement chère. C'est-à-dire que c'est l'industrie la plus chère du monde. Les usines de circuits sont les plus chères du monde. C'est beaucoup plus cher qu'une centrale nucléaire. La dernière usine de Samsung, c'est 14 milliards de dollars.
Oh.
Et donc, les gens... et amortir, il faut produire des milliards de circuits. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard de circuits de téléphone qui sortent, par exemple, par an. Donc, c'est une industrie extrêmement capitalistique. De plus, la conception des circuits est un énorme problème. On a à l'heure actuelle, mettons, suivant les circuits, entre 2 pour un téléphone et 10 milliards de transistors dans le circuit.
Qu'on appelle des transistors dans un circuit?
Le transistor, c'est le petit élément qui va faire zéro, oui ou non sur oui. les...
C'est pas ce qui nous permet d'écouter France Inter, on est d'accord?
Ah non, c'est pas la même chose. Enfin, c'est les mêmes transistors, mais ils marchent pas pareil. On les fait travailler en oui-non, comme des vannes.
Ouais.
Ouvert ou fermé.
Donc, aller toujours plus loin maintenant dans la puissance, c'est plus rentable, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Aller plus loin dans la puissance, ça devient de plus en plus difficile.
Ouais.
C'est-à-dire, par exemple, les circuits sont conçus par des logiciels entièrement, et ces logiciels deviennent de plus en plus difficiles parce que les effets physiques deviennent compliqués. La fabrication, faut comprendre qu'à l'heure actuelle, quand on rate quelques transistors dans un circuit, on le jette. Donc quand il y en a 8 milliards, c'est pas terrible. Et donc le rendement de fabrication devient faible, le coût des usines devient énorme, le design devient énorme, et donc on s'oriente vers d'autres méthodes.
Pour vous, c'est une bonne chose, ce changement de cap?
Ah bah, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que la raison, ça a commencé, les ennuis ont commencé dans les années 2000, avec le fait qu'on pouvait plus accélérer les circuits parce qu'ils chauffaient trop. Si on double la vitesse d'un circuit, on multiplie son chauffage par 4. Et à l'heure actuelle, on ferait fondre le métal, hein, donc ouais. C'est pas bon.
Gérard Berry, oui, juste pour se rendre compte, c'est l'importance de cette loi de Moore, justement, quelles avancées est-ce qu'elle a permis dans l'histoire des technologies, tout simplement?
Bah, on est passé de quelques dizaines de transistors par puce à quelques milliards de transistors par puce, ça s'est pas vu souvent. Elle a permis successivement les mini-ordinateurs, les premiers qui étaient abordables, ensuite les micro-ordinateurs, ceux qu'ont tout le monde, maintenant les téléphones, et puis aussi tous les capteurs qui sont absolument partout, les puces qui vont être dans le corps humain, les pacemakers modernes, les voitures, l'électronique des voitures, le téléphone est la chose la plus distribuée. Hein.
Ouais.
Donc c'était impossible de faire ça sans cette loi.
Comment faire des ordinateurs encore plus performants alors maintenant?
Ah ben, on travaille sur beaucoup de choses. D'abord, d'autres technologies. L'abandon par l'industrie, pas par la nature. De la loi de Moore est un bonus formidable pour les chercheurs qui cherchent d'autres méthodes. Par exemple, les chercheurs du graphène, etc. Alors, ça va être long, hein, parce que, disons que la loi de Moore a presque annulé la recherche dans le domaine, parce que ça allait tellement vite, la loi de Moore, qu'essayer de l'abattre, c'était pas possible. Et ben, maintenant, ça va redevenir possible.
Ouais. À partir de quand, d'ailleurs? Quelle est la date annoncée, au fond, pour le basculement?
2020, je pense.
2020?
Oui, c'est vers... Enfin, c'est la décision d'arrêter maintenant, mais ça veut dire que chacun va aller en disperser. Ça ne veut pas du tout dire que les progrès ne vont pas continuer. Hein. Ça veut dire que maintenant, ils ne vont plus être coordonnés dans les industries. Il y en a qui n'auront plus intérêt à progresser. Par exemple, pour les capteurs, on n'a pas du tout besoin d'avoir des choses hyper sophistiquées. Pour les grands serveurs du cloud computing, il faudra. Donc, je pense qu'Intel va continuer la loi de Moore de son côté. Et puis pour le téléphone, ben c'est la pile, c'est pas bouffer la pile le seul problème, tout le monde le sait bien. Et donc c'est, on va prendre d'autres orientations. En fait, il y a de plus en plus de sortes de circuits différents, ce qui n'était pas vrai avant.
Mmh. On entend beaucoup, beaucoup parler de l'ordinateur quantique, c'est lui l'avenir également?
Bah, l'ordinateur quantique, d'abord, c'est un sujet de recherche. Hein.
Oui.
Il y a une seule machine quantique qui n'est pas un ordinateur, qui est D-Wave, qui a des résultats tout à fait intéressants, mais ce n'est pas un ordinateur. Un ordinateur fait marcher n'importe quel programme, et D-Wave fait marcher un programme particulier intéressant. L'ordinateur quantique, s'il existe un jour, ce qui n'est pas garanti encore, permettra des ennuis, c'est-à-dire de casser des codes secrets sur Internet qui sont là pour l'instant, mais on sait aussi faire des codes secrets qui ne seront pas cassés. C'est un sujet formidable, mais ce n'est pas ça qui va améliorer le traitement des informations bancaires ou la transmission des données sur Internet. Donc il ne faut pas l'exagérer, mais c'est un sujet formidable. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres technologies plus classiques, mais qui permettent de faire des transistors à pratiquement un atome, avec des nanotubes de carbone, avec des tas de matériaux nouveaux. Elles sont très loin de l'industrialisation, mais elles arriveront forcément. Et maintenant, ça encourage les chercheurs à faire travailler encore plus là-dessus.
Donc une aubaine pour la recherche, la fin de la loi de Moore.
Une certaine aubaine pour la recherche et aussi pour la recherche en informatique, parce qu'il va falloir faire des meilleurs logiciels maintenant. D'ailleurs, les circuits, comme ils étaient très gros, devenaient très compliqués. Et quand vous avez, par exemple, 8 ou 18 microprocesseurs dans un seul circuit, c'est très difficile à utiliser.
Ouais. Et une aubaine aussi pour l'environnement ou pas?
Alors pour l'environnement, ben peut-être parce que les circuits c'est pas du tout une industrie anodine. D'abord ça consomme énormément d'électricité, donc diviser la puissance, ça fait très longtemps que c'est l'objectif, ça progresse. Et puis il y a quand même un problème de pollution sérieux sur les métaux lourds. Alors ça c'était intéressant de faire des circuits plus petits, hein, parce que les circuits plus petits ont moins d'éléments dangereux. Ouais. Et on ne sait pas recycler ces bestioles.
Hein. Ouais. Mais quelle journée, hein, l'abandon de la loi de Moore pour 2020, la détection des ondes gravitationnelles, mais ce 11 février est absolument incroyable. Merci à notre super professeur d'informatique Gérard Berry. On vous retrouve quand d'ailleurs au Collège de France, Gérard Berry? Il y a des cours à venir?
Je commence début mars,
un voilà.
Cours sur la vérification automatique des programmes.
Bon, on peut l'annoncer et on peut les suivre aussi sur Internet.
Hein. Absolument, sur Internet ou sur place.
Merci beaucoup d'être venu dans la tête au carré, merci Axel.
À demain, la grande messe des ondes gravitationnelles.
Ouais, demain, émission spéciale, on va tout faire péter nous aussi. Pour parler des ondes gravitationnelles, une heure entière consacrée avec un sacré plateau de physiciens, vous le verrez.
À demain.
Et l'annonce est à 16h30 cet après-midi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les enfants bilingues sont meilleurs pour résoudre des problèmes grâce à leur flexibilité mentale. Une équipe canadienne a étudié le comportement de 82 enfants âgés de 2 ans pendant 7 mois. Résultat, les jeunes polyglottes font preuve d'une aisance significative lorsqu'il s'agit de classer des fruits selon leur taille dans des seaux. C'est ce qu'on leur a demandé. Cette facilité serait due à l'inhibition sémantique dont ils font preuve pour sélectionner le langage dans lequel ils veulent s'exprimer en sélectionnant les bons critères afin de mieux résoudre les problèmes. C'est bien connu, les chiens ont un sacré flair et ce qui est plus curieux, c'est qu'on peut maintenant l'améliorer. Les chercheurs du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon ont entraîné 13 bergers allemands et belges et chiens malinois à reconnaître des odeurs humaines. Après 2 années d'exercice seulement, les chiens sont parvenus à flairer le bon suspect dans 85% des cas. Cette science du sentir, l'odorologie, est utilisée depuis 2003 par la police judiciaire pour retrouver justement des criminels. Et puis un coup de chapeau à Aurélien Banco qui analyse l'ADN plus vite que son ombre. Ce chercheur toulousain vient tout juste d'être primé par la Société Chimique de France pour avoir dépisté une séquence d'ADN en 10 petites minutes alors que la procédure prenait jusqu'alors pas moins de 3 heures. Sa botte secrète consiste à appliquer un champ électrique à l'ADN disposé sur une petite puce semblable à celle d'un ordinateur justement. En plus d'être plus rapide, cette nouvelle technique d'analyse nécessite 1000 fois moins d'ADN que les techniques actuelles. Bonne nouvelle donc pour la banalisation du dépistage du cancer par exemple ou des analyses criminologiques. Allez, les accidents vasculaires cérébraux, c'est dans un instant le dossier de la tête au carré.
Just me.
Just Need Your Love, Ifen Ifen.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Les accidents vasculaires cérébraux, donc cet après-midi, dossier de l'émission en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale qui justement sort un grand dossier sur le sujet dans son dernier numéro de la revue Recherche et Santé. Mes invités donc pour répondre à vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque, les professeurs Jean-Louis Mas et François Cholet. Jean-Louis Mas, vous êtes chef du service neurologie à l'hôpital Sainte-Anne et vous avez créé d'ailleurs une fondation de recherche sur les AVC qui est abritée par la Fondation pour la Recherche Médicale. C'est une fondation qui est assez jeune maintenant.
Elle a un an. Elle vient de lancer son premier appel à projet tout début février.
Ouais. Sur quelle piste, là, vous avez privilégié vos recherches, justement?
Ce premier appel à projet porte sur l'accident vasculaire aigu dans les premiers jours. Donc, ouais. La recherche aussi bien fondamentale que recherche clinique. Ça ouais. couvre l'ensemble de la recherche. C'est une fondation qui est vraiment monothématique, contrairement à l'FRM, qui est une fondation qui s'occupe de toutes les pathologies.
C'est vrai. Donc, c'était une priorité pour vous de creuser cette recherche,
hein? Oui, c'était même une recommandation d'un groupe de travail qui avait été mis en place sur la recherche à l'époque du plan AVC, constatant que les moyens mis à disposition pour la recherche sur les AVC étaient insuffisants, a fortement recommandé que soit mise en place une fondation et donc le temps de la mettre en place et la voilà prête et organisée.
Oui. Quand on lance une telle recherche, on s'engage sur combien d'années ?
C'est très variable selon les années. Les projets sont financés entre un an, trois ans. Pour ce premier appel à projet, mais on peut imaginer des projets qui sont des projets de recherche clinique, des essais thérapeutiques qui parfois prennent beaucoup plus de temps à être réalisés, qui prennent 5 ans, voire plus.
Professeur François Cholet, vous êtes quant à vous chef du service de neurologie au CHU de Toulouse, et vous avez été aussi président de la Société française neurovasculaire. Un mot sur cette société?
C'est une société qui vise à organiser les soins, la prise en charge des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux et qui vise aussi à promouvoir la recherche. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment très heureux que Jean-Louis Mas ait pu créer cette fondation de recherche. Et je dirais simplement que le gros avantage de cette fondation, c'est qu'elle professionnalise les choses et surtout, elle associe la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas de recherche fondamentale. C'est pas possible. Ouais. Mais il n'y a pas de progrès non plus s'il n'y a pas de recherche appliquée. Et c'est la qualité de cette fondation et de l'initiative qui a été prise.
Ouais. Est-ce que dans ce type de pathologie, vous arrivez à mutualiser les recherches à l'échelle mondiale, puisqu'au fond, on voit bien, hein, ce type de maladie concerne le monde entier dans la même intensité?
Oui, il y a des collaborations internationales, européennes et internationales, hein, qui sont mises en place, aussi bien en recherche préclinique, fondamentale, qu'en recherche.
Donc on arrive intelligemment à croiser les données, les résultats, pour faire en sorte d'avancer plus vite.
Oui, bien sûr. Dans le domaine, par exemple, des essais thérapeutiques, vous savez que c'est souvent très difficile de faire un essai thérapeutique parce que le nombre d'événements est faible et donc nécessite des grandes quantités de patients randomisés dans des groupes thérapeutiques. Et donc, pour donner plus de puissance à ces essais, les trialistes, comme on les appelle, font des groupes qui leur permettent de mettre ensemble toutes les données d'essais sur la même thématique et d'avoir une plus grande puissance pour individualiser les sous-groupes de patients qui bénéficient plus d'un traitement, par exemple.
On a tous dans notre entourage, amis ou membres de la famille, quelqu'un qui a été touché à un moment ou à un autre par justement un AVC. Qu'est-ce exactement que cet accident vasculaire cérébral, professeur Cholet?
L'accident vasculaire cérébral, c'est un événement aigu. D'abord, ça arrive tout d'un coup. Et c'est soit, principalement le cas, une occlusion d'une artère qui fait que le tissu cérébral qui est situé en aval n'est plus irrigué et donc va mourir. Ou alors, plus rarement, mais c'est ce qu'on appelle un accident hémorragique, c'est une rupture d'une artère. Dans ce cas, il y a un hématome qui se crée.
Donc il y a différents types d'AVC, hein, deux principalement?
Oui, tout à fait. Il y a l'infarctus cérébral lié à l'occlusion d'une artère, et puis l'hémorragie.
Ça, c'est la grosse partie. Hein,
c'est la grosse, 85% à peu près des cas. 85% des AVC. Ouais. Et les hémorragies représentent 15% environ, avec 10% d'hémorragie cérébrale lorsque le saignement se fait à l'intérieur du cerveau, ou hémorragie méningée lorsque le saignement se fait autour du cerveau. Mmh. Et ça représente 5%. Un peu plus chez les sujets jeunes. Chez les sujets jeunes, ça représente plutôt 20 à 30% des accidents vasculaires cérébraux.
Ouais. Justement, ces accidents interviennent plutôt à un âge avancé de la vie?
Oui, il y a 25% qui surviennent avant 65 ans, 50% entre 65 et 85, et le quart restant après 85 ans. Ouais. Et ça peut toucher un enfant.
Donc il y a deux disciplines, la cardio, la cardiologie, on pourrait dire les choses comme ça, enfin tout ce qui concerne le cardiovasculaire en tous les cas, et la neurologie, hein, qui sont concernées par les accidents vasculaires
cérébraux. Oui, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Disons qu'il y a des communautés entre les deux spécialités, que sont la cardiologie et la neurologie vasculaire, que sont les facteurs de risque, que sont certaines causes d'accidents vasculaires cérébraux. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que l'organe cible n'est pas le même. L'organe cible est le cerveau, l'organe cible est le cœur pour la cardiologie. Donc il y a des ponts, il y a des collaborations, mais il y a des grosses différences.
François Chollet, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, justement ? Est-ce qu'on peut repérer quand même
Alors, on peut repérer l'accident en cours de constitution, oui, ça c'est très important.
Mais ce qu'il y a avant ?
Alors, avant, il y a
absolument aucun signe ?
Il peut y avoir des signes extrêmement transitoires. Les signes de l'accident vasculaire cérébral que l'on peut décrire, les signes moteurs, les signes qui touchent le langage, peuvent venir pendant quelques minutes, quelques jours avant ce qu'on appelle un AIT, un accident transitoire, peuvent venir annoncer un accident vasculaire cérébral. Ouais.
C'est toujours le cas ou seulement dans certains cas ?
Non, absolument pas, ça n'est pas toujours le cas.
Malheureusement.
Mais par contre, ce qui est fondamental et qui prépare l'accident vasculaire cérébral, c'est une hypertension artérielle qui est mal contrôlée.
Ouais.
Ce sont des taux de cholestérol qui sont mal contrôlés. C'est le diabète. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque qui vont promouvoir la survenue d'un accident vasculaire cérébral.
Donc des maladies chroniques ?
Des maladies chroniques
qui
prédisposent clairement à la survenue d'un accident vasculaire cérébral.
Ouais. Donc dans ces cas-là, justement, comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? Très observateur justement du moindre symptôme ?
Oui, c'est-à-dire... Il y a les symptômes que décrivait François Chollet à dépister. C'est-à-dire, ce qu'il faut surtout, c'est devant ces symptômes, en particulier lorsqu'ils sont transitoires, c'est de ne pas se rassurer. Tout le monde a tendance à se rassurer. Ah, tiens, j'ai eu des fourmillements, petit déficit. Mais c'est passé.
Voilà.
J'en parlerai à mon médecin quand je le reverrai pour ma tension artérielle la semaine prochaine ou dans un mois. Et malheureusement, dans une proportion de cas non négligeable, dans les jours suivants, survient une hémiplégie qui, elle, ne récupérera pas, malheureusement, comme l'accident ischémique transitoire. Donc c'est vraiment très important de considérer l'accident ischémique transitoire comme un AVC. Et d'ailleurs, les recommandations sont d'appeler le 15 comme pour un AVC.
Eh bien justement, on va mettre un petit peu d'air dans cette discussion avec une chanson qui s'appelle AVC, vite appeler le 15 précisément. Ben ça va nous faire du bien de l'écouter, vous allez voir.
Vite, appelle vite, quand le visage est paralysé. Vite, appelle vite. Quand un bras ne peut plus se lever, vite, appelle vite. Quand soudain la parole est troublée, vite, et vite le pire. En urgence appelle le 15 dédié AVC, AVC.
Allô, le 15 ?
Voilà, c'est le message qui est le plus important, hein, évidemment. Appelez le 15, parce que ça, c'est vraiment le numéro à avoir toujours en tête. C'était à l'initiative d'une campagne organisée par France AVC et la Société française, justement, neurovasculaire. Donc, il faut bien prendre ce numéro-là.
Ah, je crois que le clip donne bien les symptômes.
Exactement.
Et tout un chacun doit pouvoir les reconnaître. Mmh. C'est une bouche qui se tord, c'est un membre supérieur ou inférieur qui devient lourd et difficile à bouger. C'est une parole qui se trouble. Ça, lorsque ça survient devant nous, ou que ça nous survient, c'est potentiellement un accident vasculaire cérébral.
Et c'est là qu'il faut justement qu'on
fasse une...
Chaque minute compte, hein, on l'a dit, il y a vraiment un critère d'urgence qui est absolument fondamental.
Oui, là, on sait que dès lors qu'une occlusion artérielle survient, la situation dans le territoire qui est irrigué normalement par cette artère est la suivante. Il y a une zone qui va se nécroser très très vite, puisqu'elle ne reçoit quasiment plus de sang.
Ouais.
Et il y a une zone alentour qu'on appelle la zone de pénombre, qui ne fonctionne pas, d'où la paralysie, d'où l'hémiplégie, mais qui reste viable, à condition que l'on reperfuse l'artère rapidement. D'où l'utilité de ces traitements, d'où l'utilité d'une part de consulter extrêmement vite, c'est-à-dire de réagir extrêmement vite aux symptômes et de ne pas attendre, je vais voir si ça passe dans les deux heures qui viennent, au contraire, s'il faut appeler immédiatement, et d'où toutes les actions qui sont menées pour raccourcir le délai entre les symptômes et le traitement. Il y en a plusieurs, hein. Il y a télé-AVC, il y a...
On va en parler tout à l'heure, pour les personnes qui sont éloignées justement des principaux centres de soins.
Il y a eu la multiplication du nombre d'unités neurovasculaires en France, qui atteint 130 ou 140 actuellement. Et puis, il y a d'autres possibilités qui consistent à... Qui sont testées actuellement en Allemagne, qui vont bientôt être testées en France, qui consistent à aller faire la thrombolyse à la porte du patient. C'est-à-dire d'aller avec...
Éviter la perte du temps du transport, justement.
Surtout dans des villes où le transport est long, c'est ce qu'on appelle les unités neurovasculaires mobiles, qui sont équipées d'un scanner, d'un laboratoire de biologie. Le patient descend dans le camion, est descendu dans le camion puisqu'il est handicapé. Et à partir de ce moment-là, la décision d'une thrombolyse est prise. Ou bien le patient est un candidat à ce qui s'appelle la thrombectomie, et il peut être là aussi dirigé plus vite que s'il suivait un circuit simple. Voilà, ça c'est une autre piste pour améliorer ce délai. Symptômes, traitement.
Professeur Chollet-François nous envoie ce message. Les AVC, maladies modernes et contemporaines, est-ce une conséquence de la sédentarité des êtres humains? Est-ce que les hommes préhistoriques connaissaient, selon vous, les accidents vasculaires cérébraux?
Je crois que la sédentarité joue, clairement, oui. Dans la mesure où on sait très bien que la sédentarité est un facteur de risque vasculaire et donc un facteur de risque d'AVC. C'est clair. Alors, la deuxième partie de la question sur les hommes préhistoriques...
On n'a pas de témoignage direct.
Je pense que d'abord, on n'a pas de témoignage direct. Ensuite, c'est quand même, l'AVC est quand même une maladie de la deuxième partie de la vie. Donc, je ne sais pas s'il vivait assez vieux pour avoir des accidents vasculaires cérébraux. Mais en tout cas, la sédentarité, clairement... joue un rôle.
Oui, professeur Mass, vous avez des infos sur les hommes préhistoriques?
Sur les hommes préhistoriques, j'ai pas plus d'infos que François Chollet. Mais sur le plan épidémiologique, il y a un phénomène quand même qui est très, très marqué, c'est que lorsque les pays dits à faible revenu économique ou à revenu économique moyen font leur transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on voit disparaître les maladies infectieuses, maternelles ou de dénutrition, l'espérance de vie augmente.
Et c'est à ce moment-là qu'on va apparaître.
Voilà, on voit flamber l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, dont l'incidence qui double tous les 10 ans. Donc, à partir du moment où une population vieillit, le nombre absolu d'accidents vasculaires cérébraux augmente.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite du dossier. Et puis les messages, témoignages aussi des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. On parlera justement dans un instant des situations d'urgence avec les personnes qui vivent loin justement des centres de soins. Palermo, Hollywood, Benjamin Biolay dans cette tête au carré avec la Fondation pour la Recherche Médicale pour parler donc aujourd'hui des AVC. Les professeurs Jean-Louis Masse et François Chollet sont mes invités. Professeur Masse, encore un dernier mot sur les chiffres parce qu'ils sont tellement considérables qu'on ne va pas les rappeler toutes les 10 secondes. Mais quand même, en 2030, les données sont assez alarmantes sur l'augmentation du nombre de cas.
Oui, tout à fait. Les données de l'OMS font état d'un doublement de la mortalité par AVC, c'est-à-dire passer de 6 millions en 2010 à 12 millions de décès par AVC dans le monde.
Et le facteur de vieillissement aussi en cause.
Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce poids supplémentaire des AVC est surtout le fait des pays à faible développement économique, dont l'espérance de vie augmente de façon importante, et qui sont de plus en plus exposés aux facteurs de risque des pays riches, hypertension, tabac, etc. etc. Ouais. Donc, ils accumulent à la fois l'augmentation du risque naturel avec l'âge, plus des facteurs de risque. Donc, l'augmentation dans ces pays-là est très importante.
François Chollet, justement, difficile d'enrayer cette courbe, cette augmentation va se produire de façon inéluctable ou on peut espérer justement quand même des résultats de la recherche pour contredire les chiffres.
D'abord, je crois qu'il y a le phénomène de prise en charge des facteurs de risque, la normalisation de la tension artérielle en particulier, qui est le principal facteur de risque, est un élément très important. Normaliser une tension artérielle moins de 14,9 après un accident vasculaire cérébral, c'est réduire le risque de récidive de 60%. Donc il y a de quoi faire. Il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, et puis il y a aussi effectivement des traitements qui visent à prévenir la récidive. Je pense aux médicaments qu'on dit anti-agréants plaquettaires ou anticoagulants dans certains cas, qui aident à prévenir la récidive.
La télé-AVC, alors justement, la téléconsultation qui peut se mettre en place dans des situations médicales d'urgence. On va prendre l'exemple de l'unité neurovasculaire du service de neurologie, c'est à l'hôpital de Valenciennes, avec ce reportage autour du docteur Isabelle Girard-Butaz.
Grâce au télé-AVC, nous sommes en capacité de traiter les habitants en urgence. Ils ne doivent pas se déplacer sur 100 km pour être soignés. En fait, on fait de la télémédecine, c'est-à-dire qu'on soigne des patients que l'on examine à distance. Oui, j'ai les clichés d'IRM. Elle a un accident vasculaire cérébral, cette dame. Donc, on va l'examiner, si vous voulez bien. Les fonds européens nous ont permis, d'une part, d'acheter les connexions entre les différents hôpitaux et, par ailleurs, d'acheter tout le matériel qui était nécessaire à cette activité. Donc, vous voyez la précision de mon image, quand même. Je peux lire le débit en oxygène. C'est très, très précis, en fait. Humainement, c'est une aventure très très importante. On soigne des gens avec des gens. Je pense qu'on est tous assez fiers, surtout du fait qu'on a apporté un service 24 heures sur 24 avec une égalité de chance face à la maladie.
Voilà, professeur Chollet. Alors ça, c'est vraiment la télé-AVC, quelque chose d'absolument essentiel pour sauver des vies, très concrètement.
Je crois que c'est essentiel et c'est une question d'égalité des chances et de répartition des moyens sur le territoire. Il y a, Jean-Louis Masse l'a dit, un peu moins de 140 unités neurovasculaires. L'unité neurovasculaire, c'est le lieu dans lequel les accidents vasculaires cérébraux doivent être admis. Parce que s'ils sont admis dans cet endroit, ils ont 20% de chances de moins de faire des complications. Ils ont 20% de chances de moins de décéder.
Donc l'ensemble du territoire se divise en 140.
Il y a maintenant des endroits qui ne sont pas pourvus d'unités neurovasculaires. Et c'est spécifiquement dans ces endroits-là que la télémédecine est particulièrement intéressante, parce qu'il y a des hôpitaux, même s'il n'y a pas d'unité neurovasculaire. Et avec les urgences de cet hôpital périphérique, on est capable, comme le disait votre reportage, à la fois, mais pas simplement de voir les images.
Ah oui, alors c'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on n'intervient pas. On voit des choses à distance, mais pour autant, si l'AVC est en cours, qu'est-ce qu'on peut faire de plus
Oui, mais il y a un dialogue entre les deux médecins, entre le médecin qui est à distance et le médecin référent, et il y a, et c'est un acte médical à part entière, un accord entre les deux, une responsabilité partagée dans la décision thérapeutique de traiter ou de ne pas traiter selon les cas.
Le professeur Masse.
Oui, c'est tout à fait intéressant. De pouvoir éviter cet écueil de régions qui sont géographiquement coupées d'unités neurovasculaires. Et c'est un très bon moyen de régler ce problème.
Dominique nous envoie ce message. J'ai fait un AVC en septembre 2005. J'habitais à l'époque en campagne, dans l'Yonne, suite à l'appel du SAMU d'Auxerre, qui a bien diagnostiqué un AVC. Il était répondu à mon épouse de me mettre dans sa voiture, de me conduire à l'hôpital qui était le plus proche, 35 km. Est-ce que c'était la bonne prise en charge? Demande Dominique.
la bonne prise en charge, je ne sais pas si elle appelait avant le 15, la bonne prise en charge, c'était peut-être d'appeler le 15 directement, mais elle a fait ce qu'elle a su, parce qu'elle savait...
Elle a appelé le SAMU d'Auxerre.
Elle a appelé le SAMU d'Auxerre, donc c'était la bonne, la bonne attitude, et de la diriger le plus vite possible vers un service capable de la prendre en charge, oui. C'était certainement la bonne attitude. Est-ce qu'elle est allée dans une unité neurovasculaire directement? Ça, je ne sais pas.
Thierry nous dit faire le 15, bien sans aucun doute, mais il faut savoir que même résident à 3 km d'un hôpital, il y a un délai incompressible de 10 à 15 minutes pour la prise en charge médicale, à condition que le 15 ne soit pas occupé ailleurs, et c'est parfois trop tard. Professeur Chollet?
J'avoue que cet aspect-là, de parler de la réactivité, il y a quand même peu de... Sur le territoire, il y a peu d'éléments en faveur d'une hypo-réactivité. Je pense que le 15 et tous les médecins qui sont, et tous les régulateurs qui sont derrière le téléphone sont parfaitement conscients de l'urgence et en général les choses vont assez vite. Alors il peut y avoir peut-être certains cas d'espèce, mais d'une manière générale, quand même la réactivité est relativement bonne.
L'ensemble de la chaîne de prise en charge est vraiment mobilisé autour de la réduction du délai. À Paris, actuellement, le temps médian, entre les symptômes et la thrombolyse, pour ceux qui bénéficient de ce traitement,
donc
est de 2h30. 2h30 pour une ville qui est extrêmement encombrée, enfin ça, tout le monde le sait. Et il y a un gain régulier sur ce délai, ce gain qui est gagné à l'hôpital, parce que quand le patient arrive à l'hôpital jusqu'à la thrombolyse, il y a aussi une chaîne à accélérer le plus possible, et ça a été fait à tel point que même le patient n'arrive même plus en neurologie, il arrive directement à la radiologie, le neurologue descend pour examiner, décider de la thrombolyse, etc. Donc je crois que vraiment tous les acteurs de cette chaîne font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de réduire ce qui est, peut être comprimé un petit peu en temps, ce qui n'est pas facile.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pendant le temps de transport, justement, ou est-ce que, justement, le fait de laisser la personne immobile sur place, si tant est qu'on puisse le faire, c'est pas mieux?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de précautions particulières. Je pense que l'important, vous l'avez dit, c'est le temps. Et je me mets à la place du SAMU d'Auxerre, qui a eu cette difficulté, probablement, d'envoyer un véhicule tout de suite voir cette patiente et qui a pris le risque, l'initiative, disons, d'envoyer cette patiente directement. Je pense que c'était, comme tu le disais, une bonne solution.
Françoise nous dit ceci: est-ce que les personnes qui ont une hygiène de vie, qui respectent des règles de diététique, n'ont pas plus de chances que les autres de ne pas avoir d'AVC?
La réponse est oui. C'est vraiment... Il faut savoir que 75% des AVC sont des premiers AVC. Donc tout doit être fait pour prévenir le premier. Après, c'est la prévention des récidives, c'est un autre problème. Et dans la prévention des premiers AVC, on sait très bien que les facteurs, la prise en compte des facteurs de risque est fondamentale. On a parlé de l'hypertension artérielle. On peut faire une remarque sur l'hypertension artérielle, c'est qu'il y a 15 à 16 millions d'hypertendus en France, et seulement la moitié a un traitement et est correctement équilibré. Donc vous voyez qu'il y a de la marge de progression. Donc les autres facteurs de risque, et puis pour répondre à la question de votre auditrice, la prise en charge, le mode de vie est très important. Il y a des études multiples qui montrent que avoir une activité physique...
Le tabagisme aussi.
Le tabac, bien sûr, qui est un facteur de risque majeur. Une alimentation, vous savez, de type méditerranéen. Enfin, toutes ces modalités, ce mode de vie, ces modifications du mode de vie sont... extrêmement utile, mais c'est pas simplement de le dire, il y a des études qui le prouvent.
Alors justement, est-ce que dans les pays où on adopte certains régimes plus crétois ou plus japonais, est-ce qu'on a moins de cas d'AVC ou pas?
Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ce que l'on peut dire, c'est que des études qui ont adopté ces régimes-là ont montré le bénéfice de ces régimes. Il y a des études sur le régime crétois. Ils n'ont pas été faits spécifiquement, sauf peut-être des derniers sur l'accident vasculaire cérébral. Ils ont été faits plutôt sur l'infarctus du myocarde. Et on a regardé si les maladies vasculaires diminuaient de façon globale ou simplement l'entrée. Et c'est le cas. Donc c'est le cas. Donc il faut continuer cette modalité.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et là. la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Déjà que j'y laissais mon cœur, tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais. D'elle et de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons ont volé leur place. Là où vivaient des arbres, maintenant la ville est là.
Je meurs, je meurs. Oh mon Dieu, je peux pas dormir. Non. Oh ça y est, j'ai une tumeur à la tête, grosse comme un ballon de basket. Oh, oh maintenant, j'ai l'impression de la sentir à chaque battement de cils. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, il veut me faire un scanner du cerveau pour confirmer ses soupçons. Oh, bon, je vais négocier avec Dieu, voilà. Alors, on limite ça à l'oreille, d'accord hein. Je serai sourd, mais et peut-être aveugle, mais aveugle d'un œil. Mais je veux pas d'une opération du cerveau, un citrifouille dans mon crâne. Je vais finir comme le type avec son bonnet de laine, là, qui fait les livraisons pour le fleuriste. Allons, détends-toi toute ta vie. Tu as connu les médecins, ça s'est toujours très bien terminé.
Voilà, l'hypochondriaque Woody Allen dans Anna et ses sœurs pour ce dossier sur les accidents vasculaires cérébraux, mes invités les professeurs Jean-Louis Masse et François Chollet. Alors le cerveau justement, tout ce qu'on connaît autour de la plasticité cérébrale, François Chollet, ça a complètement modifié aussi l'approche autour de cette pathologie.
Ça modifie les choses, oui. Ça modifie les choses puisqu'on sait maintenant que dans les suites d'une lésion cérébrale, le cerveau spontanément est capable de se réorganiser. Alors souvent d'une façon qui est imparfaite, qui laisse des traces à la fin, qui ne supprime pas la séquelle. Ouais. Mais
parce qu'il y a une grosse perte de neurones au moment d'un accident.
Alors elle dépend de la taille de l'accident, mais il y a perte de neurones, oui.
Ouais.
Les neurones, lorsqu'ils sont détruits, sont détruits.
Oui. Alors, justement, il n'y a plus de fabrication possible de nouveaux neurones dans ces cas-là.
Il y a une fabrication possible de nouveaux neurones, mais elle est très marginale. Elle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un autre tissu, comme le tissu adipeux, comme le muscle ou la peau. Le neurone se régénère pas, et rarement. Et les circuits neuronaux ont du mal à se régénérer. Donc non, le cerveau se réorganise, et c'est ce qui explique que on observe dans les suites d'un accident vasculaire cérébral, de façon spontanée, même si on ne fait rien, un certain niveau de récupération. On devient un peu moins gêné sur la parole, on devient un peu moins paralysé. dans les trois premiers mois.
Donc c'est la réorganisation des circuits dans le cerveau. Hein.
Oui, clairement, c'est la réorganisation spontanée. Et donc toute la question, c'est de savoir si cette réorganisation peut être développée, peut être promue de façon à améliorer cette capacité spontanée.
Et quelle est la réponse? On arrive à le faire ou pas?
Il y a trois éléments de réponse. Il y a un élément de réponse qui touche à la rééducation. Clairement, la rééducation, par l'entraînement, le réentraînement, est capable de créer de nouveaux circuits et d'améliorer les choses. Donc oui, la rééducation, et c'est un de ses axes forts, permet de une meilleure maturation de cette réorganisation cérébrale. Deuxièmement, il y a des techniques électrophysiologiques. Il y a la stimulation magnétique transcrânienne, qui est un outil qui permet de rééquilibrer les choses et qui peut t'aider aussi. Et puis, il y a quelques médicaments. Et c'est une voie qui est un peu nouvelle, mais qui...
Vous avez publié sur le Prozac en particulier.
Absolument.
Qu'est-ce que vous avez trouvé
Nous avons montré que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, donc une certaine classe de médicaments, étaient susceptibles chez ces patients porteurs d'un accident vasculaire cérébral d'améliorer la récupération de la motricité. Et d'ailleurs... on verra apparaître un article dans la littérature bientôt qui montre que des molécules voisines font la même chose.
C'est-à-dire après un accident vasculaire, immédiatement, le plus tôt possible en tous les cas.
Dans les premiers jours,
prendre
le fait de mettre en place ces traitements peut promouvoir une amélioration de la symptomatologie.
Jean-Louis Masse.
Oui, ce sont les voies de recherche. Il y a aussi la possibilité, mais ça c'est un petit peu le futur, de mettre des cellules à la place du tissu détruit. Alors, il y a des essais qui sont en cours avec deux objectifs. Il y a un premier type de thérapie cellulaire, comme on dit, dont le but est de promouvoir justement cette récupération, mais sans recréer des circuits, sans recréer vraiment les circuits. L'objectif final serait celui-là, c'est d'arriver à faire en sorte que des cellules puissent remplacer les neurones et les cellules de soutien qui sont autour des neurones et puissent recréer les circuits permettant la fonction. Et là, on en est encore loin, je pense.
Allez, j'aimerais qu'on consacre les dernières minutes aux questions des auditeurs. Elles sont très nombreuses. Sandra, je suis une femme de 31 ans sans pathologie particulière. Mon père est décédé à 61 ans d'un AVC hémorragique, tout comme ma mère à 70 ans. Je suis inquiète de ce potentiel héritage familial. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête?
Non, je pense que cette épée de Damoclès est très très bien attachée, qu'on peut rassurer votre auditrice. Il y a des maladies génétiques, il y a une quarantaine de maladies génétiques qui comportent de façon familiale des accidents vasculaires cérébraux, mais ce sont des maladies extrêmement rares qui d'ailleurs comportent beaucoup d'autres signes que cette personne aurait si jamais elle en était atteinte. Donc elle peut oublier ça. Alors, il y a une petite augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral quand on a un antécédent familial d'accident vasculaire cérébral, mais d'une part il est minime et il est lié à des facteurs qu'on connaît pas bien. Peut-être que c'est le mode de vie, tout simplement, qui fait que dans une famille où on mange beaucoup, très salé, d'hypertendu, etc., peut-être que tout le monde fait un petit peu comme ça, ou tout le monde fume dans une famille, par exemple. Ça, c'est un des mécanismes. L'autre mécanisme, c'est une hérédité des facteurs de risque, mais manifestement, c'est pas son cas. Ou le troisième mécanisme, c'est une hérédité de la susceptibilité à des facteurs de risque. Mais encore une fois, elle ne décrit pas de facteurs de risque. Je pense qu'on peut la rassurer.
Jean-Paul nous dit, est-ce que l'AVC peut accélérer le processus d'une maladie comme Alzheimer?
Alors, AVC, c'est AVC, Alzheimer, c'est Alzheimer. Il y a deux choses qui sont différentes. C'est vrai que
accélérer.
C'est vrai qu'il peut y avoir. Et il y a des arguments pour penser que dans certains cas, il y a des passerelles entre les deux. Et on sait, nous, très bien que un AVC peut décompenser une maladie d'Alzheimer qui était latente, mais qui existait déjà.
Donc
l'AVC ne crée pas la maladie d'Alzheimer. Oui. Hein, donc je crois que il faut être très clair là-dessus. Ce sont deux choses différentes. Mais la maladie d'Alzheimer est une maladie qui évolue sur de nombreuses années, qui est très peu symptomatique au début. Et il est vrai que parfois, la survenue d'un AVC permet de faire apparaître certains symptômes.
Oui, professeur Masse.
Pour compléter ce que dit François, les AVC peuvent, en revanche, provoquer des démences. On sait quand même que l'accident vasculaire, celui qu'on a décrit jusqu'ici avec l'attaque cérébrale, etc., c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et on sait aussi qu'il y a toute une pathologie vasculaire qui se traduit par des infarctus silencieux, par des anomalies cérébrales progressives d'origine jeune vasculaire, dont l'accumulation peut amener à des troubles cognitifs, à une démence. Et l'intérêt de cela, c'est que la prévention est possible. Il suffit, là aussi, d'éviter cette évolution, comme on évite celle vers des accidents vasculaires plus classiques.
Allez, on va essayer de faire des réponses plus courtes. Marjorie, est-ce que vos invités connaissent le pourcentage des victimes d'AVC qui gardent des séquelles et quelles sont-elles en général?
Il y a... Alors, mortalité, c'est à un an, c'est 25% des patients qui sont décédés. Parmi les survivants de l'AVC, 40%, 60% gardent des séquelles, si vous voulez, très minimes à très sévères, et 40% gardent des séquelles qui handicapent leur vie.
Patrick nous dit, j'ai des migraines dites à aura, qui se traduisent par des difficultés d'élocution, troubles de la vision, mobilité des mains. Est-ce que j'ai à craindre un AVC?
Non, là aussi, la migraine et l'AVC et l'AVC, je crois qu'on peut rassurer votre auditrice, si c'est une migraine et le diagnostic doit être fait donc par un neurologue, ouais, il n'y a pas d'AVC. Alors c'est vrai que dans certaines études, on a pu remarquer une petite majoration du risque d'AVC chez les gens qui ont des migraines accompagnées, mais ceci est vraiment mineur et je pense qu'on peut l'oublier.
Christophe nous dit, on parle souvent des AVC chez l'adulte, mais ça concerne les enfants et nourrissons. Vous le disiez tout à l'heure, professeur Mass, notre fille a fait un AVC in utero, elle a maintenant 3 ans, et elle est en rééducation tous les jours. Avec ma femme, on est confronté à beaucoup de difficultés pour proposer la meilleure rééducation. En France, on ne reconnaît que le kiné et l'orthophoniste.
Oui. Oui, c'est exact. Oui, c'est effectivement une situation dramatique. Hein, mais situation dramatique. Ça touche les enfants, ça touche les in utero aussi. Il y a, c'est des cas très rares. Ce sont des mécanismes totalement différents de ceux de l'adulte.
Hubert demande, est-ce que la prise d'aspirine ou de paracétamol réduit le risque d'AVC? Alors, dans la gamme des
l'aspirine
molécules.
est un médicament qui est actif dans la prévention de la récidive d'accident vasculaire cérébral. Mm-hmm. C'est-à-dire que lorsque l'on a fait un accident vasculaire cérébral, la prescription d'aspirine réduit le risque de récidive de 25% à peu près.
Sylvie, un témoignage il y a quelques années, alors que je travaillais devant un métier à tisser dans une usine, mon bras est tombé brutalement comme devenu mou ou inerte, je suis allé me reposer quelques minutes, j'ai retrouvé l'usage de mon bras, j'avais 40 ans, depuis plus de symptômes de ce genre, mais est-ce que c'était un prémisse d'AVC?
On va pas... C'est très compliqué. C'est compliqué de répondre comme ça, mais l'attitude aujourd'hui serait de considérer que c'est un AVC, de faire le bilan, comme un accident ischémique transitoire dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup de ces manifestations transitoires ne sont pas des AVC, mais il vaut mieux consulter à tort que trop tard. Donc c'est ça le principe.
Est-ce que l'activité intellectuelle joue un rôle, demande Anne. Est-ce qu'on dispose d'études sur cette question?
Sur la survenue d'un accident vasculaire cérébral? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'éléments particuliers là-dessus.
La prise de drogue entraîne-t-elle un risque d'AVC?
Oui, ça c'est très clair.
Ouais. Comment connaître l'unité neurovasculaire la plus proche de chez soi?
Grosso modo,
internet de référence.
Oui, il y a le site de la Société française neurovasculaire qui les donne, le ministère de la Santé également. Et puis, grosso modo, le repère est assez simple. Chaque ville de préfecture a une unité neurovasculaire aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà. Plus d'autres, mais le repère est là.
Tout à fait. Non, je n'ai pas de point à ajouter là-dessus.
Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Louis Masse et François Chollet. Je renvoie vers ce dossier de la Fondation pour la Recherche Médicale, Recherche et Santé, avec justement toutes les informations nécessaires. Si d'ailleurs vous souhaitez soutenir notre parrain, l'AFRM, eh bien vous pouvez le faire en proposant des dons pour la recherche. Chaque année, l'AFRM finance plus de 750 recherches en France et dans tous les domaines de la santé. Le site est en lien évidemment sur La Tête au Carré. Merci beaucoup messieurs.
Merci.
Et bonjour à vous Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidal.
Affaires sensibles après les AVC, de quoi va-t-on parler chez vous?
Le suicide de Patrick Devers.
Non,
je vous rassure, le suicide, c'est le fait sur lequel nous appuyons. Nous allons en profiter pour parler de la carrière de Patrick Devers. Mm-hmm. Et puis sa personnalité, bien sûr. Notre invité, c'est Bertrand Tessier, journaliste et réalisateur, qui a notamment écrit le livre Patrick Devers, La douleur de vivre.
Merci beaucoup.